France Inter.
Hello.
It's Paul McCartney.
I mean, I'm in awe of McCartney. He's got the gift for melody. He's got the rhythm. He can play any instrument.
Okay, thanks a lot,
Mr. Paul McCartney.
I just like writing songs. It's a hobby, almost, you know.
Right, how you feeling? Good.
Do you have any idea of how many songs you wrote?
I never counted.
Yes, all right. And here we go.
Aujourd'hui est venu le moment d'examiner tout un pan de la production de notre héros musical aux mille facettes, un pan qui n'est pas le mieux éclairé, ni même le plus connu, une inspiration puisée à la source des musiques américaines traditionnelles. Beaucoup connaissent sûrement ceci.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. And she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, Danny boy, showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt.
Charleston des années 1920 avec un piano bass-tringue joué par George Martin pour conclure une chanson au style folk blues américain archaïque. C'était plutôt inattendu en 1968. On a pu découvrir la chanson qu'on vient d'entendre, Rocky Raccoon, dans le fameux double blanc des Beatles qui est paru donc à la fin de cette année-là, 68. Une chanson dans laquelle Paul McCartney s'amusait à prendre un vieil accent campagnard américain et parodiait de façon loufoque les vieilles histoires de cow-boys que pouvait raconter Bob Dylan. Ça pourrait sortir de la rubrique à braque de Gottlieb, une BD que beaucoup de jeunes de ces années-là guettaient avec impatience, semaine après semaine, dans le journal Pilote. Ça commence par le récit d'un vieillard édenté qui se rappelle une histoire qui s'est passée, oh là là, il y a bien longtemps, au temps de la ruée vers l'or dans les mines du Dakota. Oui, se souvient-il, c'était un certain Rocky Raccoon. Il portait une toque en poil de raton laveur, comme le célèbre Davy Crockett, et il avait une copine prénommée McGill, mais, dit la chanson, elle préférait qu'on l'appelle Lil, alors qu'en fait, tout le monde l'appelait Nancy. Bref, un sale jour, un certain Dan lui vole la fille en question. Alors Rocky suit la traîtresse et son nouveau fiancé, il prend une chambre au-dessus d'un saloon, et à côté de sa chambre, il y a Lil Nancy et son nouvel amant, donc Dan. Rocky entre en trompe, il dégaine, mais l'autre a la gâchette plus leste et boum, Rocky tombe raide. Enfin presque, un médecin arrive, un vieux dont l'haleine empeste le jean, et il dit à Rocky, mon gars, t'en as plus pour longtemps. Et l'autre dit, mais non, c'est rien docteur, une simple égratignure. Étendu sur le lit dans sa chambre, il ouvre le tiroir de la table de nuit et dit, regardez, il y a un gars, Gédéon, qui m'a laissé sa Bible, c'est un signe. Docteur, je vais m'en sortir. Alors bon, évidemment, Rocky n'est pas très futé, il n'y a pas de Gédéon, puisque Gideon's Bible, c'est la Bible des Gédéons, c'était une société chrétienne qui, il n'y a pas si longtemps encore, d'ailleurs je me rappelle avoir vu ça moi-même, déposer une Bible dans les tiroirs des tables de chevet de toutes les chambres d'hôtel aux États-Unis. Paul McCartney, comme les autres Beatles, a longtemps rêvé d'Amérique. Il y voyait une vie plus libre, multicolore, très loin des privations et de la rigidité sociale d'une vieille Europe en noir et blanc encore corsetée. Le cinéma hollywoodien, bien sûr, et ses stars, mais aussi la musique nouvelle, le rock'n'roll et le rhythm and blues étaient, pour Paul et les autres, d'autant plus désirables qu'ils étaient souvent d'insaisissables objets de convoitise. Déjà, il faut rappeler que la radio nationale britannique ne diffusait pas ces disques de rock'n'roll. Le syndicat des musiciens avait en effet obtenu, c'est intéressant de le rappeler, que la musique enregistrée soit bannie des ondes. Ils redoutaient, d'ailleurs non sans raison, un manque à gagner. Paul écoutait donc à la radio sur onde moyenne le service de Radio Luxembourg qui était destiné aux troupes américaines stationnées dans le nord de l'Europe. C'est ainsi qu'il a découvert en 1954 le premier tube de rock'n'roll, Shaboom, par les Crew Cuts, les chansons de Bill Haley, puis bien sûr Chuck Berry, Carl Perkins, Eddie Cochran, le Texan Buddy Holly, son modèle, et évidemment Elvis. Et puis plein d'autres choses plus faciles comme les girl groups de l'époque, les Shirelles et plein d'autres. Les disques étaient rares, le plus souvent introuvables, et les jeunes d'alors se les volaient mutuellement. C'est dire la fascination particulière qu'exerçait sur eux l'Amérique. Il faut revenir là-dessus parce que ça a été la clé du succès des Beatles et des groupes britanniques qui ont déferlé dans leur sillage. D'une certaine façon, ceux-ci ont eu le génie de rendre universelle une certaine musique américaine qui se fabriquait dans les marges des villes des États-Unis et, le plus souvent, dans ces ghettos. Ce qui explique que quand les Beatles ont débarqué pour la première fois aux États-Unis à l'hiver 1964, ça a été un événement sans précédent. Aucun chanteur ou groupe britannique, il faut le rappeler, n'avait obtenu là-bas de succès massif et durable. En 1964, les États-Unis, il faut le rappeler, vont très très mal. Le président Kennedy vient de se faire assassiner. Partout explosent des émeutes et des affrontements liés à la ségrégation raciale qui est encore appliquée dans les États du Sud-Est. Et en plus, les tensions et frayeurs nées de la guerre froide s'accentuent. Il y a la terreur perpétuelle que la bombe atomique ne vienne tout brûler et raser. Et pour couronner le tout, c'est le début de l'engagement américain malheureux au Vietnam. Life could be a dream, sweetheart. Imaginez qu'un beau jour débarquent soudain aux États-Unis quatre gamins originaires d'une ville dévastée de la vieille Europe et ils clament aux Américains « Mais votre musique est géniale, vos bagnoles sont géniales, vos stars c'est les meilleurs, vous nous faites rêver, vive Elvis !» Alors pour la jeunesse américaine qui n'entend que des nouvelles déprimantes, c'est inespéré. Finalement, leur pays n'est peut-être pas aussi pourri que ça. Et c'est aussi un tour de force commercial, parce que d'une certaine façon, ces musiciens qu'aux États-Unis on désigne comme ceux de, entre guillemets, la British Invasion, l'invasion britannique, ne font qu'imiter ou, disent les mauvaises langues, il y en a qui s'en privent pas, singer, voire dérober les musiques qui se sont inventées dans les marges de la société américaine. Ces musiques qui sont nées de mélanges mal vus et le plus souvent proscrits par les représentants de l'élite aux États-Unis. Le mélange blanc et noir, bien sûr, sacré et profane, sexuel et religieux, masculin et féminin aussi, hein, puisque les Beatles avaient indéniablement quelque chose de féminin qui pouvait choquer certaines traditions masculines aux États-Unis comme ailleurs. Autant de mélanges insupportables pour ces pouvoirs qui souhaitent que dans la société des États-Unis, rien ne bouge et chacun reste à sa place. Eh bien, ces jeunes Britanniques que sont les Beatles et tant d'autres à leur suite font de cette musique, de ces musiques, une mode universelle pour la jeunesse. Ils revendent en somme aux Américains la musique que ceux-ci ont pourtant inventée eux-mêmes. Il y a là-dedans une sorte de génie commercial très britannique. Cela dit, ça n'a pas été simple du tout. Les Beatles, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui, se sont heurtés à d'importantes résistances aux États-Unis, en particulier dans certains états du Sud-Est, comme l'Alabama, où en 1966, une secte de chrétiens fanatiques a carrément appelé à un autodafé, donc une destruction de tous leurs disques et de tout ce qui était associé aux Beatles. What do you think of the comment that you're nothing but a bunch of British Elvis Presley?
France Inter, RTBF La Première, Mishka Assayas, Very Good Trip.
Quoi qu'il en soit, cette réinvention de la musique, des musiques américaines, a été au cœur de la production des Beatles et bien sûr de Paul McCartney par la suite. Et le blues rural, comme la musique country, sur lesquelles je vais me concentrer dans l'épisode d'aujourd'hui, ont été présents dès le début, la preuve.
Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be. and be with you.
Every Night, une chanson très attachante qui figure dans le premier album solo qui est signé pour McCartney, McCartney tout court, sorti en avril 1970 et dont la sortie avait correspondu à l'annonce officielle par Paul de la séparation des Beatles. Un album dont la couverture était une photo qu'avait prise sa jeune femme, la photographe new-yorkaise Linda Eastman, un bol de groseille éparpillé sur un banc peint en blanc autour d'un bol. Une image qui se tenait au bord de ce surréalisme pictural qu'avait découvert Paul dans la famille de sa première fiancée londonienne, la comédienne Jane Asher. Paul avait enregistré cet album tout seul, chez lui. Il avait équipé son appartement londonien en home studio, hein, comme on dit aujourd'hui. Quelque chose que très peu de musiciens pouvaient se permettre alors. L'équipement était bien sûr extrêmement onéreux. Et Paul avait joué de tous les instruments lui-même. Il avait aussi fait glisser ses doigts sur le rebord de verres à vin pour enregistrer la curieuse vibration que ceux-ci émettent quand on fait ça. Alors cet album, c'est un curieux patchwork qui a remarquablement bien vieilli. Y figurent néanmoins dans cet album solo deux des plus belles chansons qu'il ait jamais écrites, Maybe I'm Amazed et Junk. Patience, on les entendra au cours des prochains numéros de cette série. Quand l'album est sorti, la plupart des critiques, il faut le rappeler, ont haussé les épaules, banal, insignifiant, creux, un des adjectifs que toute sa vie, Paul McCartney a entendu. Parce que la légèreté, pour beaucoup de critiques, c'est toujours suspect. Comme si c'était plus facile que la complexité en musique, alors qu'en vérité, c'est tout le contraire. Le charme et la magie dans la musique, c'est souvent insaisissable. Eh bien, le secret, raconte et souligne McCartney, c'est d'être obstiné et patient, et il l'a toujours été. Dans ce premier album qu'il a signé en solo, donc qui s'appelle McCartney tout court, on trouve à la fois des bricoles et des merveilles. Et ça a toujours été comme ça chez lui. Dans ses esquisses de 70, le plus souvent, ce sont des airs de rock'n'roll, de blues et de country américain, assez archaïque au fond, qui lui viennent. Le blues et le rock'n'roll, on l'a entendu, ce sont évidemment les sources éternellement présentes de sa jeunesse. Quant au blues, particulièrement, il a eu l'occasion d'en approfondir sa connaissance auprès d'un grand connaisseur du genre, qui vivait à ce moment-là à Londres, même s'il était de Manchester, c'est John Mayall, un maître du blues anglais, le découvreur et formateur, entre autres, de Eric Clapton ou encore de Peter Green. Quant à la country, eh bien, elle a été présente aussi dès les débuts des Beatles. Dans l'album de chansons du film Help, qui est paru en 65, Ringo Starr avait repris Act Naturally, c'est une chanson popularisée par le chanteur country californien Buck Owens. Quant à I'm Looking Through You, une chanson tirée de l'album Rubber Soul qu'on a entendu juste avant, elle a un parfum très country aussi. C'est une chanson que Paul avait écrite dans le petit salon de musique de l'immeuble londonien qu'occupaient les Asher, les parents de sa fiancée Jane, et où, au dernier étage, il logeait dans une chambre de bonne. Ce même petit salon où Mrs. Asher, donc la maman de Jane, donnait ses leçons de flûte à bec et de hautbois. Paul raconte qu'avant d'écrire I'm Looking Through You, il venait de se disputer avec Jane, qui, à son goût, passait trop de temps loin de lui au théâtre de la ville de Bristol où elle jouait. Mais les paroles de I'm Looking Through You ont vraiment une portée universelle, hein, je cite « Je regarde à travers toi, où es-tu parti? Je croyais te connaître, en fait, je ne connaissais rien. » Voici un rock'n'roll, toujours extrait de ce premier album solo de Paul McCartney, intitulé donc simplement McCartney, et fabriqué à la maison, That Would Be Something, une sorte de rockabilly, au tempo plutôt lent, dans lequel Paul imite admirablement la voix du jeune Elvis, une chanson qu'il a reprise une vingtaine d'années plus tard, dans un style country blues, pour la série MTV Unplugged, c'est-à-dire sans instrument électrifié.
Something that would be something to meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. Meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. That would be something. Something beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain.
Grass. a horse, I got a sheep, I'm gonna get me a good night's sleep. Living in a home in the heart of the country.
I'd like to walk in a field with you. Country dreamer. I'd like to walk in a field. Country dreamer. If I can remember the words. I'd like to walk in a field with you. Take my hat and my boots off too. I'd like to lie in a field with you. Would you like to do it tonight? Would you like to do it too? I'd like to wash in a stream with you. Roll my trousers up and not feel blue. I'd like to wash in a stream with you. Would you like to do it too, May? Would you like to do it too? You and I, country dreamer. When there's nothing else to do. Me, oh my, country dreamer. Make a country dream come true. Well, now I'd like to walk up a hill with you. Stand on top and admire the view. I'd like to roll down that hill with you. Would you like to do it too, May? Would you like to do it too, May? Would you like to do it too, May? Yeah.
Une chanson pas très connue de Paul McCartney, Country Dreamer, elle remonte à l'année 1973 et puis elle était apparue sous une forme davantage orchestrée en face B d'un 45 tours, un single si vous préférez, signé Paul McCartney et Wings. La version que j'ai choisie, qui est plus sommaire, n'est même pas une maquette puisque vous l'avez entendu, Paul a oublié les paroles au début. Il s'agit d'une répétition du groupe filmée dans le cadre d'un documentaire consacré au groupe Wings et intitulé One Hand Clapping. Alors, bien sûr, les liens entre les Beatles, Paul McCartney et la musique country sont nombreux. Déjà, il faut le rappeler, à Liverpool débarquaient depuis longtemps des bateaux qui transportaient du pétrole depuis les ports de la Nouvelle-Orléans et de Galveston dans le golfe du Mexique. Ils transportaient aussi dans leur cargaison eh bien, des disques de musique du Sud, country and western, que collectionnait Ringo Starr. Ringo Starr qui a d'ailleurs enregistré un album de chansons country en 1971 qu'il a appelé Dieu sait pourquoi, Beaucoup of Blues. Et puis, il faut souligner quelque chose d'essentiel, c'est que le rocker préféré de Paul McCartney est de loin, celui qu'on peut même considérer comme son inspirateur et son modèle, était un Texan, Buddy Holly. Buddy Holly avait fait ses débuts dans un style country traditionnel, même bluegrass, hein, la version archaïque du genre, et la découverte d'Elvis, en première partie duquel Buddy Holly avait chanté dans sa ville de Lubbock, dans le nord-ouest du Texas, avait été pour lui une révélation. Et sous l'influence d'Elvis, eh bien Buddy Holly avait débridé et même déchaîné son style qu'on a appelé rockabilly, un rock'n'roll au parfum rural du Sud, dont il n'était évidemment pas l'unique représentant, très loin de là. Il y a surtout une chose qu'a tout de suite remarqué Paul McCartney, c'est que Buddy Holly composait ses propres chansons. Des chansons plus accrocheuses les unes que les autres. Elles avaient pour la plupart un rythme fébrile, haletant, et leurs mélodies étaient aussi entêtantes que variées. On avait tout de suite envie de les entonner avec lui. Le groupe de Buddy Holly s'appelait les Crickets, et c'est bien sûr pas du tout par hasard si Paul et les autres ont choisi pour nom définitif les Beatles, un jeu de mots sur Beatles avec deux E qui signifie, comme chacun sait, scarabée. Paul et John avaient découvert Buddy Holly lors d'une émission de télévision britannique de la chaîne ITV, hein, sur le gros poste en noir et blanc de leur foyer respectif, et fascinés, ils avaient absolument tout étudié de lui, son style, son jeu de guitare et ses chansons, évidemment. La découverte de Buddy Holly a été aussi, entre parenthèses, un choc extrêmement profond pour Bob Dylan. Il en a souvent parlé, il a même introduit son discours de remerciement pour son prix Nobel de littérature en évoquant le clin d'œil que Buddy Holly lui aurait fait depuis la scène du concert auquel Dylan assistait. En tout cas, les Beatles, à leur début, reprenaient régulièrement sur scène pas moins d'une douzaine de chansons de Buddy Holly, comme « That'll be the day » ou « Words of Love ». Et quand, en 69, ils ont enregistré l'album abandonné « Get Back », qui deviendra « Let It Be », Lennon a spontanément chanté « Mailman, Bring Me No More Blues », une chanson de Buddy Holly. « Words of love you, whisper soft and true, darling, I love you. Tragiquement, beaucoup le savent, Buddy Holly est mort à 22 ans seulement dans un accident d'avion. Paul McCartney lui est resté éternellement fidèle et en 1976, il a même racheté les droits de son catalogue de chansons. Et si on parle de musique country, il est impossible de ne pas mentionner l'influence immense sur les débuts des Beatles, des Everly Brothers, deux frères installés à Knoxville, dans le Tennessee, non loin de Nashville, eux aussi passés d'une musique country traditionnelle au rock'n'roll. Leurs harmonies vocales ont servi de modèle aux Beatles, tout comme d'ailleurs au célèbre duo new-yorkais Simon & Garfunkel. Darling, when you're here. Voici un pur blues très américain, Letting Go, signé par Paul McCartney et Wings en 1975. Human being so divine. Oh.
France Inter,
RTBF La Première.
Great Day, une chanson enregistrée au milieu des années 90 qu'on pouvait entendre à la fin de Flaming Pie, un album publié en 1997, un peu en guise de post-scriptum. Flaming Pie, qu'on peut sans doute considérer comme le premier classique de sa période tardive. McCartney s'était remis la tête dans les Beatles durant cette période. En effet, en compagnie du superviseur musical historique du groupe, George Martin, il s'était replongé dans la masse de leurs enregistrements. Pourquoi ? Eh bien, le but était de constituer une anthologie, anthology, c'est d'ailleurs le titre choisi, en trois volumes parus entre 1995 et 1997, qui ont rassemblé des maquettes, enregistrements rares, chansons écartées et aussi versions de titres connus, bref, toutes sortes d'archives laissées par les Beatles depuis leur début jusqu'à leurs adieux. Il y avait même eu, c'était bien avant les ultimes développements récents de l'intelligence artificielle, deux, entre guillemets, nouvelles chansons des Beatles intitulées « Free as a Bird » et « Real Love » qui avaient été réalisées à partir de maquettes enregistrées sur cassette par John Lennon à la fin des années 70. On était parvenu, grâce à de savants procédés qui annonçaient en fait l'intelligence artificielle, à extraire artificiellement la voix de Lennon de son accompagnement d'origine rudimentaire, afin de permettre aux trois Beatles survivants de plaquer par-dessus une autre orchestration. George Harrison était en effet encore vivant. Et c'est un des proches de Harrison, l'anglais Jeff Lynne, l'homme du groupe Electric Light Orchestra, qui avait supervisé cette étrange opération électronico-chirurgicale. À la fin des années 90, à 50 ans passés, McCartney s'est pour la première fois sans doute penché à nouveau sur l'œuvre des Beatles, comme si celle-ci lui était un peu devenue étrangère, en tout cas il l'a redécouverte d'une oreille neuve. Et peut-être cela l'a-t-il orienté vers le retour dans le choix de ses sons et de son style à un certain classicisme. Et peut-être cela l'a-t-il poussé aussi à se mesurer à cette autre période de sa vie, à ce que les Beatles avaient créé. Dans ce cadre, la présence de cette chanson « Great Day », là encore une sorte de country blues archaïque, a une résonance particulière. Il s'agit en fait d'une chanson que McCartney avait écrite très jeune, en 70, à 27 ou 28 ans, juste après la séparation du groupe, et qu'il avait laissé en plan avant de la reprendre avec Linda en 1992, et il s'était enfin résolu à la publier 5 ans plus tard, en 1997, à la fin de l'album Flaming Pie, peut-être comme traversé par une révélation. Je m'explique. Dans son livre « Paroles et souvenirs » de 1956 à aujourd'hui, paru chez Buchet-Chastel, et dont je vous parle souvent parce qu'il me fournit une partie non négligeable de la matière de cette série radiophonique, eh bien Paul McCartney a consacré des pages très révélatrices à cette chanson. « Je me morfondais chez moi », raconte-t-il en substance, juste après la séparation des Beatles. Et oui, un père au chômage, il n'a plus rien à faire, les enfants s'activent, lui n'a rien de spécial en préparation. Et puis soudain, dans ce marasme, une lueur d'espoir, la lumière de l'enfance. Quand t'es bien réveillé, allez, bon sang, dis-le s'il te plaît, ça va être une super journée. Comme dit McCartney, une comptine pour enfants, un refrain puéril qu'on se répète, sans trop savoir pourquoi, pour se donner du courage. La vérité, commente-t-il plus loin, c'est que j'écris pour les enfants. Peut-être que ça veut dire que je n'ai toujours pas fini de grandir. Et c'est peut-être ça dont, à 50 ans passés, Paul McCartney s'est aperçu pour la première fois. C'est que le génie des Beatles, c'était celui de l'enfance, et que l'âge adulte ne lui avait rien apporté de plus que ce qu'il savait déjà, et qu'il lui fallait renouer avec son enfance, que c'est de là que, pour lui et sa musique, venait la lumière.
Now let me take you to the movie, Max, so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man and a double barrel behind the door who waits for me, I know. Oh, climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show. I only see her once a week and it's when my work is through. I break new ground the whole week long when my mind sets straight on you.
and I've polished up my old horse Beck, and she looks good, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand? Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that double man and that double barrel behind the door that waits for me, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. Long with my mind set straight on you, and every time I try to smile, my heart it breaks in two. I slick myself for Saturday night, cause there's one thing I know, I'm gonna take my Maggie dear to the Western Picture Show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand? But it ain't that I don't like your house, it's just that old man and that double barrel behind the door that waits for me, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show.
Chanson signée Chuck Berry mais rendue célèbre par Buddy Holly, Brown Eyed Handsome Man, rendue à la mode Cajun. Un retour à l'adolescence pour Paul McCartney et puis surtout au héros de sa jeunesse dont je vous ai longuement parlé tout à l'heure, Buddy Holly. Cette reprise figure dans un album qui s'appelle Run Devil Run, que Paul McCartney a enregistré assez vite après la mort de sa femme Linda en 1998, des suites d'un cancer du sein d'ailleurs, tout comme sa mère 40 ans auparavant. Durant cette période, McCartney s'était consacré à la composition d'une pièce orchestrale, un long poème symphonique au thème celtique, centré sur la quête de l'origine du monde. Le London Symphony Orchestra, dirigé par Lawrence Foster, et un chœur de 120 chanteurs avaient interprété Standing Stone, une œuvre que McCartney, incapable d'écrire la musique au sens classique, s'était mis au défi de composer, assisté sur son ordinateur par une série de logiciels. Alors Standing Stone a été à peine mieux accueilli que son Liverpool Oratorio de 1991, descendu en flammes par les spécialistes de musique classique. Confronté à l'une des pires choses qui puissent arriver à un humain, perdre la personne qui vous a soutenu, vous a apporté la vie, des enfants, la joie, la liberté, eh bien Paul McCartney a vécu bien sûr le temps du deuil. Mais dès qu'il s'est senti la force de chanter à nouveau, il est allé d'instinct vers la lumière et la joie aveugle de ses premières années de musicien. Les reprises de rock'n'roll, de blues, de country américaine, ces chansons interprétées par Elvis, Carl Perkins et les autres qui avaient enflammé les débuts des Beatles. Et Paul McCartney a décidé d'inviter au studio de Abbey Road en 1999 deux guitaristes exceptionnels. Déjà David Gilmour de Pink Floyd, qui avait l'habitude encore au début des années 80 de jouer des reprises de rock'n'roll dans un pub à Londres pour lui et ses potes. Et puis il y avait aussi Mick Green, qui venait d'un excellent groupe de rock'n'roll anglais qui s'appelait les Pirates, les Pirates. Et depuis, eh bien Paul McCartney n'a jamais lâché ses sons âpres, propres à ses débuts. Il y a toujours puisé la source de son énergie, une véritable fontaine de jouvence. Paul McCartney avait 65 ans en 2007 quand on a découvert ce titre, That Was Me, dans un album qui s'appelle Memory Almost Full.
France Inter,
RTBF La Première.
Definitely no more Pink Floyd.
No, finished.
Do you think that you can say that Pink Floyd is the best band ever and then the Beatles?
The Beatles are the best.
Mishka Assayas, Very Good Trip, Paul McCartney.
At the scout camp, in the school play, spade and bucket by the sea. That was me. That was me, playing conkers at the bus stop, on a blanket in the bluebells. That was me. The same me that stands here now. And when I think that all this stuff can make a life, it's pretty hard to take it in. That was me. Well, that was me. Royal Iris on the river, Mersey beaten with the band. That was me. Yeah, that was me. Sweating cobwebs under contract in the cellar on TV. That was me. The same stands in now. If fate decreed that all of this would make a lifetime, who am I to disagree? That was me.
Live at Tree Lil, une chanson extraite du dernier album en date de Paul McCartney, McCartney 3. Oui, le dernier en date, puisque à l'heure où je vous parle, il en prépare un autre. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à Josépha Lebrun qui a réalisé l'émission. C'était Jérôme Ragano à la technique. Merci également à François Merlin et Romain Couturier à la discothèque de Radio France. Dans le prochain épisode, on abordera le versant folk et traditionnaliste dans un autre style de Paul McCartney. À la prochaine.
Let's rock. À bientôt.